C'est par Jupiter sur France Inter. On arrive au port.
Ah oui, mais lequel?
Par Jupiter sur France Inter.
Bah oui, mais lequel? De port.
Bah le port.
Oh le port quoi. Ça. Non, bah non, non.
Bah voilà.
Ça sonnait comme le Havre.
Vas-y,
je sais pas.
Balance ton port, alors... Gaillet.
Merci, Laetitia, pour ces informations. Je vous dis à demain.
À demain.
...9h dans le bureau de Par Jupiter. Charline et Guillaume s'arrachent la doc de l'invité.
Non, mais c'est... La...
Mais lâche ça!
Non, c'est moi
c'est
qui
moi.
M'en occupe.
Ah bon? Et depuis quand tu t'occupes des invités,
mais c'est
toi?
Mais c'est pas pareil, c'est un breton.
Ah bah t'es né dans l'Est.
Mais oui, bah c'est dans le cœur, la mer.
Ah non, ouais. non, c'est ma spécialité, les navigateurs.
Mais hein. Tu te déplaces en scooter.
Mais c'est dans la tête, la voile.
Mais non, ouais, ça va, les amis.
Non,
ça va pas.
Mais doucement, on est que mardi, là.
Oui, bah non, mais là, c'est du sérieux, Alex.
Exactement, donc il faut laisser ça aux gens sérieux.
Ah bah d'accord, tu connais toutes les chansons de Brian Parker? Je crois pas, non.
Mais calmez-vous.
Toi, calme-toi.
Ah oui, ok. Et toi, t'as suivi avec passion toutes les courses du Vendée Globe depuis 92? Je ne crois pas, non.
C'est fini, là.
Non, peut-être pas, mais moi j'ai visité un phare, madame.
Si, 2009. Si vous continuez, c'est moi qui vais la mener, l'émission. Et je peux vous dire, j'y connais rien.
Quoi, en Bretagne?
En voile?
Mais entre les deux.
Mais oh, tu vois, c'est un ou deux.
Mais oui, mais alors c'est à qui de le
c'est
faire
moi, ah, C'est moi.
Mais moi je connais par cœur Santiano, de Hugo Frey. Ça compte.
Alex.
Non.
Mais moi j'essaye de vous aider, là. Vous n'allez pas vous battre toute la journée pour ça.
Non, les Bretons sont un peuple pacifique. Mais faut pas emmerder les pacifiques.
Mais faites-le à deux.
Ah bah non, parce que les marins, c'est des solitaires.
Écoutez, maintenant vous me fatiguez.
Oh là, il s'énerve.
Dis donc que ça va.
Si vous vous mettez pas d'accord, j'invite un coureur cycliste flamand et il y en a plus un qui moufte. Est-ce que c'est clair?
Oui, bah.
Ouais, je crois que j'ai compris, moi.
Et au boulot. Oui. Merci, bisous, merci.
Kenavo.
France Inter et bienvenue dans la régate des optimistes de la rigolade. Donc voici la devise, mieux vaut être seul qu'accompagné d'un cas contact. Voici le sommaire, le duel Lewis Hamilton-Max Verstappen s'est soldé par un final spectaculaire dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi, une dramaturgie à la hauteur de l'épilogue.
Le dernier virage, Max Verstappen est champion du monde. Il est champion du monde. Mais non. Mais c'est fou.
Et hop, une ITT. Et pour compenser tous ces moteurs, certains veulent revenir à la voile. Pour la pêche, le transport de marchandises, mais aussi pour le transport de personnes. Une coopérative entend même le démocratiser et vient de lancer le blablacar de la voile.
Allez, faites pas la tête, monsieur.
J'ai pas la tête, c'est juste que moi, au départ, quand j'ai tapé Vanessa pour le covoiturage, c'était pas pour tomber sur les 2B3.
Pour sauver la planète, on nous a d'abord dit de faire pipi sous la douche. Maintenant, on nous dit de ne plus prendre une douche tous les jours. Mais où est-ce qu'on fait pipi? C'est la question. L'idée est de faire une toilette de chat pour sauver la planète, tout simplement en se laissant aller, quoi.
Je ne me fais plus de soucis, plus du tout. Je me brosse même plus les dents.
Et à mes côtés aujourd'hui, sans transition, Alex Vizorek.
Vous voyez pas, j'ai un masque. J'ai le reste de l'équipe exceptionnelle autour de la table. 17h20, l'homme qui fait la pluie et le beau temps en matière de choix musicaux. Même si j'ai souvent l'impression qu'on se fait doucher. Le François Hollande de la programmation musicale, c'est Djoubaka.
Oh la vache, quel lancement.
Ouais, t'as vu.
Et de quoi on va parler?
J'aimerais bien le savoir.
Des Owing Joe.
Voilà. Toujours de belles découvertes. 17h30, le seul vrai adversaire d'Emmanuel Macron dans cette campagne.
Oui,
d'ailleurs, il va bientôt créer son parti En Marché. Tellement il passe du temps avec les Français sur les marchés, c'est Guillaume Meurice.
Oui, bonjour à tous. Mais je vais vous parler de Manuel Valls aujourd'hui, figurez-vous. Je suis allé non pas sur un marché, mais à l'Assemblée nationale pour tenter de lui trouver une solution, quoi, une place. Hein, parce qu'il a du mal à rebondir depuis ses trahisons. Là.
Moi, je considère pas qu'il ait trahi.
J'ai peut-être une piste, un amnésique.
Et enfin, 17h40, l'homme qui va animer le soir du Nouvel An sur cette antenne. Il y aura donc des flûtes à bec et des flûtes à champagne avec Thomas Vélévé.
Eh oui, bonjour les amis. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de pouvoir écouter l'émission cette semaine.
Zut.
Mais j'imagine que je vais vous faire au moins peut-être la 11e chronique sur la primaire de gauche.
Et voici celui qui va fendre la brise de l'actualité. Je vous laisse nous annoncer que vous êtes...
Bonsoir, Armel Lecléache.
Ah oui, c'est lui.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue, Armel Lecléache. En fait, on dit Armel Leclerc, non?
Alors ça va dépendre.
C'est un débat.
Attention, parce que là en Bretagne, vous allez faire tousser certains.
Ouais.
En fonction des régions, on va prononcer le CH soit R, soit K, soit CH, donc moi c'est, on dit le Cléache. Et
sinon on ne vous reconnaît pas.
Sinon on ne vous reconnaît pas. Mais j'ai déjà entendu toutes les prononciations, donc c'est pas
grave. Moi aussi, vous savez que Vanunaker, on va s'entendre. Armel, vous êtes arrivé troisième de la Transat Jacques Vabre il y a deux semaines avec votre co-skipper Kevin Escoffier sur l'ultime banque populaire 11. C'est-à-dire qu'il y en a eu déjà 10 avant, c'est ça ?
C'est ça, oui, ouais. C'est un sponsor fidèle dans la voile. Ça fait plus de 30 ans qu'ils arment des bateaux. Et donc, on a eu la chance de naviguer sur le 11e, qui est un grand trimaran, qui fait 32 mètres de long par 23 mètres de large. Et on était tous les deux sur ce grand bateau pour aller du Havre jusqu'en Martinique. Alors, on a fait un petit détour parce qu'on avait plusieurs parcours différents en fonction des bateaux, des catégories de bateaux. Et nous, avec nos bateaux très rapides, on avait le plus long parcours qui nous amenait même jusqu'au large de Rio de Janeiro.
Alors, et donc, à l'issue de la course, là, ce que vous venez de faire, c'est de ramener le bateau, donc.
C'est ça.
C'est ça, ben oui.
Ben oui, une fois que la course est terminée, on ne met pas le bateau dans un cargo ou dans un conteneur et puis il rentre en avion. Non, il faut le ramener le bateau et par la mer, bien sûr. Donc, quelques jours après l'arrivée, on est reparti. Alors là, pour le coup, en petite équipe, parce que j'ai une équipe qui me suit toute l'année. Donc, on était 6 à bord et on a pris donc la mer direction Lorient, en Bretagne, qu'on a rejoint au bout de 6 jours. C'était rapide, le retour. On a eu des conditions assez ventées. On a retrouvé les conditions hivernales qu'on connaît bien. Et puis, on est arrivé le week-end il y a 10 jours. Et là, le bateau sort de l'eau demain pour un petit chantier d'hiver, voilà, pour le mettre un petit peu au chaud pour les semaines à venir.
D'accord. Alors, vous avez connu un début de course plus difficile. Puis vous êtes remonté à la 2e place, que vous avez tenu longtemps, c'est ça? Et puis, vous finissez 3e. Alors, je rappelle que le premier arrivé, c'était Franck Camas avec Charles Caudrelier. Ensuite, en deuxième position, François Gabart et Tom Laperche. François Gabart, qui nous écoute en ce moment, on l'embrasse.
Oui, oui.
Il nous charge de vous embrasser d'ailleurs avec le Cléage. Vous avez un petit mot à lui adresser s'il nous écoute, à François Gabart qui vous a doublé sur la fin en fait.
Bah ouais, il n'a pas été très sympa, il nous a doublé juste à quelques milles de l'arrivée. Non, non, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on régate ensemble. On a eu l'occasion de batailler notamment sur un Vendée Globe ensemble en 2012-2013, où il m'avait battu de 3 heures seulement après 78 jours de course. Et donc l'année prochaine, on va se retrouver notamment sur la route du Rhum, au départ à Saint-Malo pour une traversée en solitaire. Ça va être une course incroyable. Et oui, c'était une super course avec des très beaux bateaux, de très beaux marins, de très beaux duos, parce que c'est une course en double. Mm-hmm. Et on s'est bien amusé avec Kevin.
Il y a beaucoup de Français dans les marins.
C'est vrai.
Comment ça se fait qu'il n'y a pas une équipe belge pour faire quelque chose là, parce
il y en avait, mais sur une autre catégorie.
Ouais, il y avait des Belges sur une autre catégorie qui ont bien marché. Je crois qu'ils étaient au pied du podium.
Et puis... Ça, c'est notre grand
souvent,
truc, ça.
Souvent, souvent, on nous vole la victoire et on se retrouve au pied du podium. C'est l'histoire de notre vie.
Il faudrait rajouter des pédales sur le bateau. Pour ça. Il y a quand même quelques étrangers qui naviguent. Hein. On l'a vu sur le dernier Vendée Globe. Je crois qu'il y avait 40% de skippers étrangers. Même un Japonais qui a terminé la course. Hein. Kojiro Shirashi qui a fini son premier tour du monde. Donc ça se démocratise un petit peu dans le monde de la course au large en solitaire, mais ça reste quand même une spécialité française. Hein. On a quand même une histoire incroyable avec des marins comme Tabarly, Alain Colas et plein d'autres, Florent Sarto, bien sûr. Donc on a une spécialité, on reste pour l'instant encore un peu maître des océans, mais je pense que la roue va finir par tourner un jour.
Alors après la route du café, la prochaine grande course, il y a notamment la route du Rhum en novembre prochain. Donc dans un an, ça va le rythme des courses à la voile? C'est pas trop épuisant, Armel Lecléache?
Non, ça va. On n'a pas un grand prix, une course tous les week-ends. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a des grands rendez-vous. On a souvent une grande course par an.
Mais comment est-ce qu'on s'entraîne? Alors, parce que vous ne pouvez pas vous dire, tiens, on va s'entraîner, on va traverser l'Atlantique. Et puis, vous entraînez ça. Comme ça, en faisant des longues traversées?
Avec ces bateaux-là, oui. Ouais. On a la capacité de traverser l'Atlantique rapidement. C'est des bateaux qui naviguent à 30-40 nœuds de vitesse, donc c'est presque 60-70 km/h, ça va très vite. Donc on arrive à traverser l'Atlantique en une semaine. Donc notamment l'année prochaine, pour me préparer pour la route du Rhum, avec mon équipe, on va aller jusqu'en Guadeloupe en entraînement, donc on va traverser l'Atlantique. Moi je serai à bord, pas en course, mais en entraînement, donc tout seul, pour mettre une semaine pour aller jusqu'aux Antilles. Et ensuite, le retour, on le fera en équipe réduite pour justement continuer à travailler, à perfectionner le bateau et bien sûr le marin.
Ah d'accord. Et à chaque fois, il va falloir le ramener, quoi.
Oui, bien sûr, on ne peut pas... Oui, c'est notre petit travail. Hein, il faut bien...
C'est pas comme les Vélib, vous ne pouvez pas le laisser...
Non, il n'y a pas d'abonnement. Non.
Est-ce que de chaque course, vous tirez un enseignement? J'imagine que, bon, malgré toute votre carrière et votre palmarès, vous apprenez encore des choses. Et si vous tirez à chaque fois un enseignement de chaque course, peut-être la dernière, la Transat Jacques Vabre, il y a quelque chose qui vous a servi en plus et que vous utiliserez pour la route du Rhum ou pour d'autres ?
Ouais, bah déjà cette année, c'est un nouveau bateau qui a été mis à l'eau au mois d'avril. Donc on a beaucoup appris sur ce bateau. On a encore appris des choses avec Kevin pendant cette traversée. On a trouvé des petits réglages différents. On s'est comparé aux autres aussi. Donc c'était important pour nous. Pour l'année prochaine, parce qu'on veut gagner la Route du Rhum, c'est notre objectif sportif de 2022. Et puis aussi, j'ai appris à connaître mieux mon co-skipper, Kevin Escoffier, parce qu'on se connaissait beaucoup, on avait beaucoup travaillé ensemble au sein du même équipe Banque Populaire, mais lui était parti faire le Vendée Globe. Bon, ça a été un peu compliqué pour lui l'hiver dernier, parce qu'il avait été naufragé, a été récupéré par Jean Le Cam. Mais voilà, on a aussi vécu une belle histoire humaine à bord, c'était vraiment très sympa, et puis lui aussi m'a apporté son point de vue, ses connaissances, et comment son regard en fait de marin pour maîtriser le bateau l'année prochaine où je serai tout seul.
Ouais. Vous avez des manières de skipper très différentes entre vous et lui par exemple ?
Bah c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'équipage avant de venir au solitaire, alors que moi j'ai fait beaucoup de solitaire avant de faire un peu plus d'équipage. Donc c'est assez marrant parce qu'on arrive à trouver des points de vue un peu différents, mais au final on a quand même une approche assez similaire sur la gestion du bateau, parce qu'on sait que c'est grand bateau, quand on navigue tout seul ou à deux, il faut beaucoup anticiper pour pas se faire dépassé par la machine, c'est toute la complexité de ces fabuleuses Formule 1. Et donc, on a cette même gestion de bateau et on essaie de faire attention d'abord de préserver la sécurité, la performance et puis d'essayer de faire une belle place à l'arrivée. Ouais.
Et là, vous l'avez gardé à bord, visiblement.
Je l'ai gardé, oui.
J'imagine que vous avez fait pas mal de blagues là-dessus.
Et avant aussi.
Armel Lecléache est avec nous jusqu'à 18h. Et l'ultime Banque Populaire, bien sûr, qui l'a mené troisième de la Transat Jacques Vabre. Il est avec nous jusqu'à 18h, on le garde à bord aussi. Allez. My life is cold. You put the flame on it. The flame on it. This heart of mine. You wrote your name on it. You wrote your name on it. With such a style. I couldn't look away from me. 2,000 miles. I wouldn't stay away from me. You Put the Flames on It par Charles Bradley, programmation musicale Djoubaka qui est en notre compagnie, mais bien sûr. Armel Lecléache est avec nous jusqu'à 18h. Alex, c'est pour l'entourer.
Eh ben, Djoubaka, vous l'avez dévoilé. Thomas VDB qui est à fond les ballons, qui a écouté l'émission toute la semaine pour préparer une chronique très différente de celle de ses petits camarades et aussi pertinente. Et Guillaume Meurice qui a cherché du travail à Manuel Valls. On est impatients.
Oui, tout à fait. Et on vous tient au courant des informations.
Miss France 2022 et Miss Île-de-France.
Le journal de presque 17h17.
Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour.
Et on commence par les titres.
Pour Jean Castex, il faut se préparer au déploiement massif d'Omicron, car, je le cite, les variants finissent toujours par s'imposer.
Et ça, c'est vrai. Prenez par exemple le Macron. Eh bien, c'est juste un variant de Hollande et Sarkozy. Eh bien, il a fini par s'imposer en 2017.
Alexandre Benalla a été placé en garde à vue dans l'affaire dite des contrats russes pour des soupçons de corruption.
Lui qui aimait tant se faire passer pour un flic, ça doit lui faire bien plaisir de passer autant de temps dans un commissariat.
Et les fameuses brèves.
Eh oui, Charline, j'ai placé en garde à vue deux brèves. Libération envisagée à la fin de ce journal. Et commençons par l'épidémie.
Oui, parce que le conseil scientifique a donné ses recommandations pour les fêtes de fin d'année.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Dites-nous.
Eh bien, il recommande entre autres de bien aérer les pièces en laissant les fenêtres ouvertes.
Wow. Ah, ben ça c'est une bonne information. Et puis ce sera donc la première année où on va être content quand notre tata va nous offrir une grosse écharpe en laine. Même si elle est moche, c'est pas grave.
Noël toujours, c'est ça?
Mais oui, Charline, blind test. Elle adore les... Allez, on lance le blind test. Qui chante? C'est un duo.
Moi je sais.
Vous les avez vus?
Ils sont très beaux.
C'est Jean et Jean-Mi. C'est le duo Jean et Jean-Mi. Jean Castex et Jean-Michel Blanquer. Djoubaka est en AVC. On chantait avec des enfants, avec une très belle chorale d'enfants. Et en matière de vent, bah, ils savent de quoi ils chantent, j'ai envie de dire.
Jean Castex était de passage à Marseille. Il a déclaré au micro de France Bleu Provence qu'il faudrait une situation catastrophique pour fermer les écoles.
Ah, bah, s'il faut une situation catastrophique pour fermer les écoles, je crois qu'on l'a. On peut considérer que c'est une situation catastrophique.
Politique encore, invité de LCI, Manuel Valls déclare que réunir la gauche est une tâche impossible.
Eh oui, Manuel Valls ne croit tellement plus en son avenir politique qu'il est redevenu de gauche. Et ça, c'est beau.
Un volet social maintenant avec la SNCF. Oui. Trois syndicats ont déposé un préavis de grève pour le week-end prochain, du 17 au 19 décembre.
Bah, dis donc, la SNCF, ils annoncent les grèves bien plus tôt que les trains maintenant. Et là, j'ai dit chapeau.
Et international au Brésil, deux politiciens ont réglé leur compte sur un ring.
Alors, je dis pas forcément que c'est une bonne idée, mais je dis quand même que je mettrai un petit billet sur Poutou Zemmour dans un octogone. Voilà, c'est tout.
Sorti à présent, 400 000 personnes de plus de 65 ans risquent de perdre leur pass sanitaire demain, faute d'avoir fait leur dose de rappel.
Et ça, c'est triste. Ils ne pourront plus aller au restaurant, ils ne pourront plus aller au cinéma, au pire. Ce sont des gens qui ont tout à fait l'âge pour venir au Théâtre de l'Œuvre, du mercredi au samedi à 21h. Vaccinez-vous.
Musique selon une étude, la chanson 1-800-273-8255 de l'artiste de hip-hop américain Logic a permis de réduire le nombre de suicides.
Ça c'est pourquoi.
En fait, le titre, c'est le numéro pour appeler le centre d'écoute.
Ça, c'est quand même sympa. Une chanson qui diminue le nombre de suicides. En fait, Logic, c'est l'anti-Damien Saez.
Et des brèves.
Bernard Carayon, le maire Les Républicains de Lavaur, dans le Tarn, interdit l'usage de l'écriture inclusive dans sa ville. Saluons donc au passage tout.te.s, les habitants.e.s de le.lavaur. Ils vont être très tristes, je pense.
Et la dernière,
Saône-et-Loire, une femme qui pensait communiquer avec le chanteur Michel Sardou sur Internet s'est fait escroquer de 5000 euros. C'est la honte.
Qu'est-ce que vous racontez,
du coup, je suis en train de me demander si ce Western Union que j'ai fait à Michel Thor via Instagram,
c'est pas une bonne idée. Merci Alex Vizorek.
De rien.
Armel Lecléache, abordons ce thème que vous avez souhaité d'ailleurs nous soumettre. Dans le sport, la rivalité fait toujours vendre. On sait, hein, Messi, Ronaldo en foot, Djokovic au tennis, ou George Wood, Guillaume Meurice en gainage.
Nadal, Djokovic. Mais on est réconciliés.
Et bien sûr, et la rivalité qui passionne en ce moment est celle entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Écoutez.
Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Je veux être le premier, moi alors!
Moi aussi.
Comment ?
Je dis, moi aussi, je veux être le premier.
Mais alors, monsieur, moi, je suis dans ma rue. J'ai le droit d'être le premier dans ma rue. Vous n'êtes pas dans votre rue, vous ?
Non.
Eh ben, alors, allez dans votre rue, comme ça, vous pourrez être le premier.
Vous avez raison.
Et on pourrait être le premier tous les deux, comme ça.
Bien.
Et vous ne bougez pas. Vous ne partez qu'après mon départ. Longtemps après.
Fufu dans L'Homme Orchestre, film de Serge Corbert. Alors c'était dimanche, Grand Prix d'Abu Dhabi, dans ce pays de, du pétrole et des droits de l'homme. alors Armelle Lecléache, vous avez regardé le Grand Prix, vous avez proposé ce sujet en évoquant un duel manichéen, Hamilton-Verstappen, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène dans la rivalité sportive que vous avez regardée d'un œil... Intéressé ?
Ouais, un œil à la fois de sportif, mais aussi, je trouve qu'on a, retrouvé, comme dans d'autres sports, on a parlé du tennis, mais on peut en trouver plein d'exemples, justement où finalement il y a deux acteurs auxquels on peut s'identifier.
Ouais.
On était ceux qui regardaient la télé, étaient soit pour Hamilton, soit pour Verstappen, et parce qu'ils ont voilà une approche différente, un caractère différent. C'est vrai qu'en plus il y a eu la série sur Netflix, le documentaire qui a un petit peu scénarisé tout ça. Donc c'est vrai que c'était un scénario incroyable qui s'est déroulé voilà jusqu'à la dernière seconde quasiment. Et je trouve que dans le sport, en plus du côté sportif qu'on peut retrouver des performances pures, il y a un côté humain, c'est-à-dire qu'on va les gens vont s'identifier à des sportifs.
Ah, mais vous êtes team Hamilton ou team Verstappen?
Alors moi j'étais plus Hamilton.
Ouais.
Effectivement, parce que je trouvais l'approche un peu plus qui me correspond à ma façon d'être dans mon sport. Mais voilà, j'ai trouvé ce scénario incroyable. On pensait que Hamilton allait gagner, et puis finalement voilà, ça a complètement changé de scénario en quelques secondes. Ouais. Comme on voit, ça peut arriver. On sait que jusqu'à tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, il peut se passer énormément de choses. C'était incroyable comme scénario. Et puis,
Il y a des parallèles avec votre sport. On parle tout le temps de Formule 1, de la voile, etc. Il y a des vrais parallèles à faire alors.
Ouais, il y a des vrais parallèles.
Et vous, ça vous intéresse de regarder la Formule 1 pour ça aussi?
Moi, j'étais pas un grand passionné de Formule 1 jusque-là. Et c'est vrai que le fait d'avoir regardé sur cette série sur Netflix, ça m'a donné envie de regarder un peu plus. Et du coup, il y a eu cette mise en scène avant ce Grand Prix, parce qu'ils étaient à égalité parfaite. Donc, je pense que comme beaucoup d'autres personnes, on a regardé ce Grand Prix-là en particulier. Et puis, jusqu'au dernier tour, il y a eu ce scénario incroyable.
Ouais,
est-ce que c'est important d'avoir un bon concurrent? Parce qu'au-delà d'être dans sa discipline le meilleur, s'il y en a un qui vous tire vers le haut, c'est quand même très motivant, même si on l'aime pas, en fait. Non, parce que Alesi Prost, ces trucs-là, on n'est pas sûr qu'ils s'aimaient vraiment, mais ils étaient importants l'un pour l'autre.
Bien sûr. On dit souvent que quand on gagne, il faut un très bon second, quoi. Et,
Senna Prost.
Et moi, ça a été le cas avec François Gabart. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que quand François gagne son Vendée Globe, on a eu ce duel incroyable pendant quasiment 3 mois autour du monde. Ça s'est joué à rien.
Ouais.
J'aurais pu gagner, mais c'est lui qui a gagné. Il a été meilleur que moi sur la fin.
Qui est le Verstappen de vous deux?
C'est lui le plus jeune. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des belles histoires. C'est aussi pour ça que ça fait la légende. Je trouve que ça écrit les légendes des pages du sport.
Et c'est aussi pour ça qu'on regarde éventuellement tout
et
ça.
Les gens se passionnent pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté sportif, mais c'est pas forcément ça qu'on retient. C'est aussi la partie humaine, voilà, ce que les sportifs vont raconter, vont véhiculer comme image, comme valeur, comme façon de réagir. Moi, j'ai trouvé ce qu'a fait Hamilton, alors c'est pas parce que j'étais pour lui, mais après l'arrivée, il a quand même félicité son concurrent direct, alors qu'il venait de perdre le championnat du monde. Enfin, toute sa saison, elle a basculé en quelques secondes. Il a été hyper honnête et courageux de dire ça. Et enfin, franchement, c'est faut être costaud dans sa tête là.
C'est beau. Voilà. Avant d'entamer le sujet de la rivalité Guillaume Meurice Alex Vizorek, on va passer à la musique de Chewbacca.
Ouais, vous savez, en ce moment, je me suis remis à lire en boucle du Stephen King, et dans chacun de ses livres ou presque, il cause de musique et surtout de rock'n'roll. Il cause de ce moment où votre vie bascule pour une chanson où vous commencez très sérieusement à vous dire que votre futur est de monter sur scène, guitare à la main et d'envoyer du bois. Alors, il aime particulièrement les groupes quand même qu'on commençait à se frotter à cette évidence bien avant la vingtaine. King aime les années 60, un rock basique fait pour chanter, danser à tue-tête dans la bagnole. Et à chaque fois qu'il s'emballe pour une bande de gamins qui font péter le son dans le garage du paternel, je me demande pour quel groupe aujourd'hui il aurait les faveurs en fait de Stephen King. Eh ben, il y en a un, qui, je pense, trouverait sa place dans les pavés du maître. Ce sont les Owing Joe, un trio qui vient pas d'un coin paumé du New Jersey ou de Liverpool, mais de Padam. Et les Owing Joe, ça sonne comme ça. I've been watching you, girl, for a long time. Alors je dois vous avouer que ça fait un petit moment que je les suis, moi, les Owing Joe, et je me souviens très bien de la première fois où je les ai vus sur scène, il y avait une évidence. D'abord, leur nom était un hommage à un bluesman, Howlin' Wolf, ça commençait pas mal. Ensuite, ils avaient chopé tous les codes du rock'n'roll, un charisme de chien fou. C'était une bande de gamins, en fait, qui auraient joué dans l'espace-temps, téléporté des années 50 jusqu'à ce concert dans un rat pourri parigo du 20e. Alors, ils avaient l'esprit, en fait, sans être la copie. Et ils n'envoyaient que des morceaux originaux et semblent jouer ensemble depuis perpète. C'est presque étrange. Un magicien télévisé là, des années 70 aurait dit « il y a un truc ». Et en fait, il y a un truc. Parce que deux de ces zigotos se connaissent depuis la maternelle. Et le troisième est arrivé beaucoup plus tard, lorsque tout ce beau monde est entré en sixième. C'est une complicité qui dure et qui s'exprime autour d'un front commun. En gros, faire de la musique, jouer sur scène, encore et encore. Il y a 10 piges, ils ont 15 ans et ils sortent leur premier album. Alors Stephen King, il aurait aimé. Hein. Alors les Owing Joe, je vous le dis, ça sonne comme ça en fait. Alors leur troisième album a pour nom Strange Effect, là je traduis pas, hein, et il apparaît comme une suite logique de tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Sauf qu'on oublie un peu le rockabilly des origines, mais on garde l'énergie. Alors dans un concert à Londres, bah parce qu'ils jouent un peu partout quand même les gars, ils rencontrent Liam Watson, alors son nom vous dit rien, mais c'est le mec qui a été l'ingénieur du son d'un album culte des White Stripes, Elephant, vous y avez le tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin, voilà, le Seven Nation Army.
C'est mon album préféré, les White Stripes.
Voilà. Et donc voici nos Frenchies là, qui prennent place dans le Torax Studio de Monsieur Watson. Alors la particularité de cet antre, c'est que c'est quand même une autre époque. Tout le matos disponible date d'avant-hier, pas du tout. On enregistre encore sur bande, il n'y a pas un ordinateur à l'horizon. Donc si t'as envie de faire du rock, en fait, qui sonne comme on le faisait il y a 40 ans, voire plus, et ben c'est l'endroit qu'il te faut. Par contre, il n'y a pas de machine intelligente pour attraper les sorties de pistes vocales, instrumentales. Les Owing Joe vont qu'il y ait 11 chansons qui nous font diablement penser au rock anglais des années 60, c'est juste parfait, on aura tout maîtrisé du début à la fin, donc c'est pas pour nous déplaire. L'album est déjà sorti, il est dans les bacs, et on écoute She Lies.
Yeah.
Donc c'était les Howling Joe, on va s'en rappeler. L'album c'est Strange Effect, c'est chez Bellevue Records et Modular, je crois. Et la chanson qu'on vient d'écouter, c'est She Lies. Sinon le bouquin de Stephen King que je suis en train de lire, si ça vous intéresse, c'est Revival. C'est entre Faiseurs de Miracles et Studio.
Hein, merci Djoubaka, qui a entre autres talent aussi d'exposer ses collages. C'est en ce moment à Paris, à la galerie Les Yeux Fertiles, 27 rue de Seine. Et on peut vous y rencontrer demain après-midi. N'hésitez pas à aller voir.
Je pense que Stephen King aimerait bien vos collages.
Ah, probablement.
Ah, ça se pourrait.
On est en compagnie d'Armel Lecléache. Dites-nous, Armel Lecléache, entre la Transat Jacques Vabre, où je rappelle vous êtes arrivé troisième avec Kevin Escoffier, et en novembre prochain la Route du Rhum, est-ce qu'il y a une course de prévue entre eux quand même, ou que de l'entraînement ?
Si, si, il y aura une course au mois de juillet qui est en train de se mettre en place. Ça va s'appeler la Brest Atlantique. Donc on va partir de Brest. Alors ce sera en équipage.
Ouais.
Et on va faire un grand triangle. On va aller virer au large des Açores, puis des îles Canaries, et revenir à Brest. Donc voilà, ce sera une course...
On vous suit donc en juillet, alors.
En juillet, et puis avant, bah, j'irai normalement en Guadeloupe pour m'entraîner. Ouais. Voilà, chercher un peu de soleil, mais surtout traverser l'Atlantique sur ce terrain de jeu, parce que moi, c'est mon terrain de jeu, en fait.
Oui, on a bien compris, oui, voilà. Arrêtez de trimer, c'est bon. Ouais, ça va. Lui aussi, il a un terrain de jeu, oh c'est l'Assemblée Nationale.
Oui, c'est vrai.
C'est Guillaume Meurice.
Parce qu'on a un problème avec Manuel Valls, là.
Oui, oui.
On ne sait pas quoi en foutre. Voilà, il est perdu, même Macron, il n'en veut plus. Pourtant, il a Castaner et Berger, donc c'est pas les QI négatifs qui lui font peur, mais il veut plus de Valls, alors il est là, on sait pas quoi, il traîne dans nos pattes. Nous on l'a pris hier dans la matinale, bon on a fait semblant de s'intéresser un petit peu, il a écrit une tribune, voilà, on s'en sert pour la caisse du chat. Il y a RMC qui le prend un peu de temps en temps, voilà, c'est une sorte de garde alternée. Il y a LCI où il a dit: je pense que dans ce pays on ne fait pas suffisamment appel à ceux qui ont un peu d'expérience. Voilà, un petit clin d'œil. Ça c'est comme quand un mec veut être dans une chronique de Djoubaka. Il dit, vous savez, moi je fais du blues avec une râpe à fromage et je me suis fait manger la jambe par un crocodile à 4 ans. Voilà, ça c'est classique, c'est les petits appels du pied. Bon alors, moi tout ça, ça me fait peine. C'est vrai, ça me fait de la peine de voir Valls comme ça. Je suis allé à l'Assemblée nationale ce matin pour savoir s'ils ne pouvaient pas le reprendre, s'ils n'ont pas quand même une place pour lui. Et je suis d'abord tombé sur une ancienne de ses collaboratrices qui s'appelle Marianne et qu'il connaît très bien du coup.
Il est toujours de gauche, j'en suis sûre.
Ça, on est sûr de cette information ?
De quoi ?
Qu'il est toujours de gauche.
Bah, si on lit sa tribune, j'ai dit, putain, je suis toujours valsiste.
Ah là, ça c'est une valsiste à radicaliser, hein. Parce que c'est vrai que sinon, tout le monde, en lisant la tribune, a dit, putain, mais il est encore là, lui ! Ça, c'est vraiment la réaction qu'on a eue. Mais moi, j'aime bien les espèces en voie de disparition, donc j'aime bien les valsistes. C'est mon côté un petit peu WWF. Alors, je suis resté un petit peu avec Marianne pour parler de son rapport à Manuel.
Je me suis engueulée avec des potes. Ouais, mais que je comprends pas, t'es pas raciste. Non, mais vous avez rien compris, Valls n'est pas raciste. Faut arrêter les conneries.
Quand il dit que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer dans la République, est-ce que c'est pas raciste ?
Cette phrase est, on va dire, pas raciste, elle est xénophobe peut-être.
Ah voilà, mais
oui,
c'est pas ça, il y a des subtilités avec Manuel, ça se joue comme ça, rien du tout. Par exemple, à Barcelone, il a manifesté avec l'extrême droite, mais c'était l'extrema derecha. Ah, ça n'a rien. Ben oui, c'est des petites subtilités. Marianne, elle le sait, elle a fait la campagne des primaires. Hein.
J'ai fait sa campagne des primaires, ouais.
Et sa trahison après alors ?
Mais j'ai envie de dire, je m'en fous. Dans le sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est le combat politique, les valeurs.
Est-ce que c'est une valeur, ça, la trahison ?
Non, mais ça, après, par ailleurs, on parle de Valls, mais il n'y a pas que lui qui a quitté le PS pour rejoindre En Marche.
Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On peut même dire que Manu, il a été influenceur, sur le coup. Il y a plein de députés qui ont suivi. Et donc, j'en ai croisé ce matin des députés. J'ai croisé notamment Jean-Christophe Lagarde. Ah. Je sais que vous m'enviez un petit peu, ma vie de... Mais je sais, je vous vois, vous avez des étoiles dans les yeux. Oui, je côtoie les grands hommes de la République. Bon, il n'y a que Charline qui sait, mais quand même, bon, voilà. Le président de l'UDI, alors Jean-Christophe, il défend Valls.
Mais je ne pense pas qu'il ait trahi. D'abord, trahir, c'est trahir son pays. Quand vous dites le contraire de ce que vous pensez bon pour votre pays, c'est la première chose.
Voilà, il avait signé le fameux document.
Malheureusement, ça fait partie des choses qui arrivent en politique.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est les trucs qui arrivent. Vous êtes là, vous glissez sur un stylo, bam, vous signez un truc qui vous engage à soutenir un candidat. Ça, c'est le coup classique. Hidalgo, ça lui arrive, hein. Je serai pas candidate. Paf, elle se cogne dans une porte. Bon, ben je serai candidate, mais je veux pas de primaire. Paf, elle se casse la gueule dans l'escalier. Il faut une primaire. Voilà, c'est un classique. C'est un classique chez les candidats. Mais sinon, Valls, il a toujours été fidèle, en tout cas à lui-même.
Il est resté là-dessus, sur sa ligne politique. Parce que la gauche de Jaurès, ça peut pas être ceux qui font de l'islamo-gauchisme. C'est donc pas non plus celle qui accepte le wokisme. Pardon, mais quand on
explique... Jaurès, c'était pas woke.
Ah non, il était vraiment pas woke. Non,
alors, c'est vrai, j'ai bien relu les discours de Jaurès et il ne prononce jamais le terme. Il ne cite jamais Rokhaya Diallo, hein, par exemple, Jaurès. Coïncidence, bon, ben, je ne crois pas. De là à dire qu'il aurait soutenu Valls, il n'y a qu'un pas. tout comme ceux qui l'épaulaient quand il faisait partie de la majorité présidentielle. Bruno Ketel, député LREM, que je n'en finis plus de croiser aux quatre colonnes, et à qui j'ai demandé de bien vouloir reprendre Valls quand même. Parce
que... Et ça dépendra de lui, de sa volonté de se présenter au suffrage l'année prochaine.
Parce que nous, on ne sait plus quoi en faire, hein, c'est ça, il est tout le temps dans nos pattes.
Non mais vous verrez, vous habituez, c'est quelqu'un de très bien, très attachant, humainement.
Vous parlez de lui comme si c'était un animal de compagnie.
J'ai bien compris qu'il fallait que je précise.
Oui, ça c'est important. C'est vrai qu'il est attachant humainement. Il est un petit peu hargneux, mais il a le poil doux et soyeux. Il ne faut pas lui en vouloir, n'est-ce pas Bruno ?
Non, mais Manuel est un garçon qui doit pouvoir apporter quelque chose à la République.
Oui, mais quoi ?
Mais justement, par un engagement qui lui reste à déterminer.
Oui, c'est ça, on n'a pas bien compris ce qu'il pouvait apporter à la République.
Je crois qu'il faut attendre, il faut être patient.
Voilà, on va attendre encore un petit peu. On ne sait pas ce qu'il va faire en attendant. On va voir si ça se trouve, sur un coup de bol, il reprendra sa route vers un endroit qu'il n'aurait jamais dû quitter, d'ailleurs, l'oubli.
Guillaume Meurice, oui. Merci. Ça fait plaisir de retrouver l'Assemblée nationale. Ça se sent. Oui. À venir, Thomas VDB sur l'Union de la gauche, bien sûr, restez avec nous. Et dans tout ce bazar, Armel Lecléache a accepté de venir avec nous, le skipper Banque Populaire.
Il va partir en mer plus tôt, je crois.
Effectivement. On va aborder cet autre thème pendant que certains préparent le retour de la pêche à la voile. Un projet avec des biologistes et un projet mené aussi par les navigateurs Michel Desjoyeaux et Roland Jourdain. Et d'autres lancent le blablacar de la voile en organisant le transport de personnes en voilier plutôt qu'en ferry ou en avion. C'est une coopérative qui propose à partir de janvier un Toulon-Ajaccio, Biarritz-Lorient ou Brest-New York. Après, c'est comme du covoiturage, hein, mais où il est plus difficile de débarquer. Donc il faut bien tomber, quoi.
Jamais on va parler comme ça. Je suis le seul maître à bord après Dieu, moi, sur ce bateau. Alors si mademoiselle a rendez-vous à 18h, qu'on essuie une tempête, qu'on est en mer et que je gère avec les moyens du bord, alors moi, je vous chie à l'arrêt. Voilà. Alors Benoît, tu me prends ta poufiasse et tu me l'expédies dans le rouf.
Philippe.
C'est pas une petite garce comme vous qui va faire la loi sur mon bateau, qui est mon plaisir, hein. Allez, moi, j'affole, j'achète tout, je leur lance, je leur dis merde. Putain, là, je m'en fous, là, la voile. Allez, witch de mon cul, oui. Putain, là. Allez, j'enfile les bouts. Allez, ce bateau est une merde. J'ai jamais dû s'appeler autrement que Zigomar. Moi j'ai acheté 40 000 balles à Zigomar. Je me suis endetté pour 2 ans pour un Zigomar.
Je ne sais pas si vous avez reconnu Armel Lecléache, ce film. C'est Denis Podalydès dans Liberté Oléron, le film de son frère Bruno Podalydès. La fameuse
réplique. On s'y croirait.
Hein. Bah oui. Winch de mon cul, ça vous arrive
Non, j'ai déjà entendu des choses comme ça.
Alors, justement, la voile pour le transport de marchandises, c'est tout à fait marginal, mais ça existe. La pêche à la voile, c'est un projet qui est mené avec des biologistes et des marins. Il y a aussi le transport de personnes qui va bientôt commencer. C'est d'ailleurs Maxime de Rostelan qui a créé les Fermes d'Avenir, qui a imaginé ça avec d'autres. Donc à petite échelle, ce retour de la voile pour des choses pratiques, est-ce que ça vous emballe ?
Oui, c'est sûr qu'il faut réfléchir à l'avenir. Moi, je connais bien Arthur Levaillant qui fait partie des trois cofondateur de ce projet. Ouais. Arthur, c'est quelqu'un qui a beaucoup navigué. Et c'est sûr que, il faut imaginer comment on peut, pas forcément remplacer, mais trouver d'autres alternatives pour voyager. C'est sûr que faire un Lorient-Biarritz à la voile, ça va prendre un petit peu plus de temps que de le faire en voiture. Mais,
c'est pour Lyon-Bordeaux que c'est
compliqué. C'est plus compliqué. Et c'est sûr qu'il y aura sûrement des gens intéressés parce que aujourd'hui on n'a pas forcément le même besoin de voyager avec des timings serrés ou envie de faire autre chose, peut-être de profiter justement de ce voyage pour faire autre chose, travailler sur le bateau.
Parce qu'il y a plus de 200 000 voiliers de plaisance qui passent quasiment 98% de l'année dans les ports. Et justement, pour soulager les frais d'entretien, les coûts d'amarrage, etc., c'est une solution qui devrait ravir tout le monde, en fait. Quand on a le temps, bien sûr.
Quand on a le temps. Et puis, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, effectivement, des systèmes pour louer des bateaux, comme Click & Boat, par exemple, où on peut louer un bateau d'un particulier parce qu'il navigue pas, il est disponible, et puis on va faire une sortie d'une journée ou de X temps, et puis on peut le faire sur différents ports en France ou en Europe. Donc c'est des choses qui se développent énormément et c'est un besoin parce que aujourd'hui, oui, d'avoir un bateau déjà ça coûte de l'argent. Il faut l'entretenir, il faut trouver une place dans un port, ce qui est compliqué parce que les ports sont en saturation. Donc c'est des bonnes idées, ouais, pour le futur.
Et aussi c'est des possibilités de reconversion pour pas mal de marins qui prennent peut-être la retraite de la course, peut-être pas pour skipper les,
peut-être pas pour conduire pas les gens, de bus mais pour moi, mais non, c'est vrai que aujourd'hui
tout ce genre d'alternatives, non, c'est des projets pour
c'est
plus
important,
tard,
c'est important. Ouais. Même je dirais que nos bateaux de course aujourd'hui qui sont des Formule 1 de la mer, on pourrait dire à quoi ça sert. Nous, nos bateaux sont équipés de notamment ce qu'on appelle les foils, ce sont ces espèces d'ailes qu'on déploie sous les coques pour voler un peu au-dessus de l'eau et d'aller de plus en plus vite. Ces technologies-là, on l'espère, dans le futur, vont peut-être servir pour le transport maritime, qui est un gouffre en termes de pollution, parce que aujourd'hui, c'est le transport le plus important qui existe sur la planète, mais ça consomme énormément de fuel et donc de gaz carbonique. Et donc, améliorer la vitesse des bateaux grâce à des systèmes, soit des foils, soit des cerfs-volants, soit des ailes rigides, c'est en cours de développement, c'est le futur du transport maritime. Et nous, on a envie qu'on puisse servir, pourquoi pas, un petit peu à cet édifice.
Et voilà pour le retour de la voile. Thomas VDB, donc, il paraît que vous avez des trucs à raconter sur l'Union de la Gauche.
J'en suis pas sûr.
La gauche qui nous dira enfin pour qui on doit voter, qui finira par mettre son orgueil de côté. Où est le sauveur?
C'est peut-être Arnaud Montebourg le sauveur.
Ah oui, c'est
sans
doute.
Parce qu'on ne s'y attendait pas, mais branle-bas de combat à 5 mois des élections présidentielles, il a pris son téléphone, on l'a vu, pour appeler les uns par les autres tous les candidats de gauche dans l'espoir de les réunir pour la primaire. Et sur son Twitter, on peut le voir, il se filme appeler Hidalgo, Mélenchon, Roussel et Jadot. Ça fait 4 vidéos et sur chaque vidéo, à chaque fois, il tombe sur le répondeur.
Alors, bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère que ça va. Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Veux-tu me rappeler? Amitié.
Alors, voilà. Faut savoir qu'à chaque fois, il termine par amitié, mais en vrai, personne ne lui répond. Hein, vraiment, il se fait ghoster par tout le monde. C'est pas la remontada, c'est la ghostada. Vraiment, ça. Et même si personne ne lui répond, il a quand même pris l'initiative de poster les vidéos sur son Twitter. Parce que Montebourg, il fait tout en une prise. Parce que je pense que le gars qui filmait, il lui a dit, on va peut-être attendre sur une vidéo qu'il y en ait un qui décroche un moment, non? Montebourg, il dit, non, là, j'ai mis à la première prise pour garder la fraîcheur. C'est plus comme ça. Alors, c'est sûr, si on regarde les vidéos les unes après les autres, on dirait un peu les épisodes d'un podcast sur la solitude, quoi. Oh là. Mais au moins, tous les répondeurs lui répondent. Ça, là, tu te dis, Arnaud Montebourg, il fait quand même l'unanimité chez les répondeurs des candidats de gauche. Et ça, c'est quand même bien. Et je me dis, est-ce que c'est pas l'espoir d'un début d'union, ça? Ah ben ouais! Parce que moi, dans les vidéos, les candidats, ils laissent sonner le téléphone. Ils leur envoient pas direct sur messagerie. Eh ben ça sent bon. Eh ben ouais, c'est un signe d'apaisement. Parce que quand ils ont reçu l'appel, tu sens vraiment qu'ils étaient en réunion. Ils ont dû se dire comme ça. Oh putain, c'est mon bourre. Décroche pas. Laisse sonner. Et tu dis, c'est vraiment devenu le gars, le témoin de Jéhovah de la gauche. Vraiment, j'ai l'impression que sa nouvelle stratégie, c'est de faire un maximum de peine aux électeurs. Après, s'ils se retrouvent à l'Élysée, on pourra lui demander, mais pourquoi vous avez élu ce gros nul? Les gens vont être là, ils faisaient trop de peine. Je te dis, c'est trop de peine. On pouvait pas faire autrement, vraiment. Bon, on se moque, mais au moins on va dire quand même il tente quelque chose, Arnaud Montebourg. Il essaye une main tendue vers les autres candidats de gauche, et ça on peut pas lui en vouloir quand même d'essayer ça, parce que c'est sa seule chance de rester dans la compète. Et moi c'est vrai, je comprends, parce que je faisais pareil quand j'étais petit et je jouais au Monopoly avec mon frère, et quand il commençait à gagner et mettre des hôtels partout et que moi je devais 100 000 francs à la banque, je disais c'est foutu. Ce que je faisais, je retournais tout le plateau de jeu et je faisais allez on recommence, c'était pour du beurre, alors on en fait une nouvelle maintenant c'est la vraie partie. Et donc voilà, mais en même temps du coup je comprends aussi la position de Mélenchon. Parce que c'est vrai que quand c'est moi qui gagnais et que c'est mon frère qui perdait et que c'est lui qui retournait le jeu, je faisais « Eh, mais j'ai gagné !» Et mon frère, il faisait « La rue de la paix, c'est moi !» C'était un peu énervant. Et à chaque fois, ma mère, elle arrivait, elle disait « Allez, rejouez !» Alors moi, je veux bien appeler ma mère pour gérer la primaire de gauche, mais franchement, je pense que ça va un peu la saouler quand même. Alors je vous rassure, en même temps, depuis, ça va beaucoup mieux pour Arnaud Montebourg, puisqu'ils l'ont évidemment tous rappelé. Pour lui annoncer que personne ne participerait à son truc. Et voilà. Mais ça, c'est la gauche qu'on aime. C'est la gauche polie. C'est la gauche qui rappelle. Quand même. C'est quand même sympa. Mais moi, je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à suivre quand même. Parce que non seulement il y a plein de candidats, mais en plus, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plein de primaires. Parce qu'il y a la primaire populaire et la primaire de gauche, et apparemment, c'est pas pareil. Alors, je me dis, franchement, vu la situation, est-ce qu'on avait besoin vraiment de s'embrouiller sur le nom en plus de la primaire? Parce que je me dis, si c'est pas pareil, à ce moment-là, c'est plus une élection, c'est un tournoi. Vraiment, c'est un tournoi de primaire, là. Et bon, Alors, je me dis, à la rigueur, démerdez-vous entre vous, les gars. Enfin, voilà. Je sais pas, à la rigueur, faites plouf plouf et dites-nous quel bulletin mettre dans l'enveloppe et mettez-vous d'accord entre vous. Ou bien vous faites comme les papes. vous faites une réunion et quand vous avez le nom du gagnant, bah vous envoyez de la fumée blanche et voilà, après vous nous dites le nom. Merci.
On gagnera du temps. Merci Thomas VDB. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël avec votre cousin Laurent Wauquiez.
Merci. Ah, là, bah oui,
pour ceux qui auraient suivi la précédente chronique, je vous y renvoie.
D'être dans le giron de chez Laurent Wauquiez.
On pourrait écouter Thomas VDB en podcast et en vidéo, bien sûr. Armelle Lecléage, voici cet autre sujet, cette idée qui fait doucement son chemin en France, de ne pas prendre de douche quotidienne et de se laver à l'évier pour économiser l'eau. 93% de l'eau coule pour l'hygiène et le nettoyage. Nous n'utilisons que 7% pour boire ou pour la cuisine. C'est un ratio, j'imagine, qui s'inverse complètement sur un bateau ou dans la ZAD. un bateau.
Donc voilà, Claude, c'est un clochard en fait.
D'accord. Et les copains, ça change rien qu'ils soient SDF. On n'exclut personne ici.
Non mais excuse-moi, je dis pas qu'on exclut, mais...
Bah si, moi je dis qu'on exclut les schlingueurs.
Dans la yourte, par exemple, c'est un problème.
Ouais. Bon, en tout cas, je me souviens pas que ça vous dérangeait, ça, avant.
Mais avant, moi je croyais que l'odeur, c'était dû à ces trucs de chaman, là, ces herbes.
Bah ouais, je suis désolé. La schlingue chamanique, il y a un truc un peu magique, tu vois, herbe de Provence et tout ça. Alors que la schlingue de pauvre, c'est acre.
C'est là que je vais vous demander, après Problemos, le film avec Eric Judor, s'il y a de la schlingue de voile, si on ne sait pas. Mais vous aviez repéré aussi cet article dans le JDD. Alors ça existe depuis longtemps, cette idée de prendre un peu moins de douche. On avait déjà dit déjà de prendre moins de bain. Maintenant c'est un peu moins de douche, etc. Pour économiser l'eau, pour économiser sur la facture. J'imagine que vous avez repéré cet article du JDD parce que ça vous rappelle votre quotidien en course.
Exactement, oui, oui. C'est sûr que sur nos bateaux, on fait très attention à l'utilisation de l'eau, parce que nous, on la fabrique. On a un désalinisateur pour transformer l'eau de mer en eau douce. Donc, bien sûr, on ne va pas prendre une douche pendant 8 minutes, parce que je crois que c'est à peu près le temps moyen que chaque Français passe sous sa douche chaque jour. Donc, non, une douche à bord d'un bateau, c'est on va prendre 1 litre ou 2 litres d'eau uniquement. Donc, c'est là où on apprend justement à savoir utiliser très peu d'eau pour faire un maximum de choses. Mmh. Et on y prend soin parce que l'eau, elle est vitale. C'est sûr qu'on peut tenir, à la limite, sans manger pendant plusieurs jours, mais sans boire, ça devient impossible. Donc, quand on revient à terre, notamment, par exemple, après un tour du monde, après un Vendée Globe, on se rend compte, en fait, de la chance qu'on a d'avoir, justement, l'eau courante, d'avoir tout, finalement, à portée de main. Nous, on a appris à vivre sur notre bateau pendant 3 mois, donc on s'est habitué à ce confort spartiate, mais qui est suffisant. Et puis tout d'un coup, on retrouve la facilité d'une vie à terre qu'on oublie quand on est chez soi tous les jours. Et que
ça s'oublie vite ou bien vous gardez des bons réflexes?
Je trouve qu'après, j'ai fait 3 Vendée Globes, donc après coup, on prend conscience un peu plus, effectivement, après chaque tour du monde, de la chance qu'on a d'avoir ce confort et donc de faire attention à ça, justement d'en parler aussi autour de soi. Nous, on est souvent sollicités par les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui suivent nos aventures, notamment le Vendée Globe, parce que c'est une course qui dure 3 mois, où il y a beaucoup de projets pédagogiques autour de ces tours du monde, de ces marins. Et donc, c'est aussi le discours un petit peu, le témoignage qu'on peut apporter. On n'est pas forcément des donneurs de leçons, loin de là, mais c'est plus expliquer comment on peut mieux gérer l'utilisation de l'eau, parce qu'on a des exemples sur nos bateaux qui sont concrets. Et donc ça parle aux enfants, ça parle aussi à nous, aux gens avec qui on discute à table.
Et pour désaliniser l'eau, est-ce que ça prend pas mal de temps? Ou bien c'est comme la cruche Brita, hop, on fout de l'eau et puis
non,
ça va pas aussi vite?
Alors c'est un appareil électrique qui fonctionne avec un petit vérin. Donc il faut, en gros, il faut à peu près 1 heure pour fabriquer 5-6 litres d'eau. Donc ça prend un peu de temps.
Ah oui,
Et grâce à, on peut avoir des systèmes qui nous permettent de fabriquer de l'énergie. Ça peut être, nous on a des éoliennes sur nos bateaux, ça peut être des panneaux solaires. On a des hydrogénérateurs aussi sur les bateaux du Vendée Globe qui sont le même système que les éoliennes, mais qu'on va mettre sous la coque d'un bateau. C'est une hélice qui tourne et qui produit de l'électricité.
D'accord.
Ouais, mais, voilà. Mais pour cuire les pâtes, l'eau est déjà salée.
Alors c'est cool.
Ok.
Alors, elle est très salée.
Vous savez quoi, on va passer au Jupiter Cruise parce que je vous sens chaud.
C'est
allez, je me doute.
Mon bateau.
De 0 à 10 du meilleur navigateur, 17 ans Éric Tabarly, 0 étant Christophe Colomb qui part dans le mauvais sens. vous situez où?
Oh, je dirais, je sais pas, je suis pas Éric Tabarly, c'est sûr, mais entre 5 et 10 quoi.
Bon, c'est une bonne note. Quel capitaine de bateau êtes-vous? Le capitaine Nemo, le capitaine Haddock, le capitaine Kirk, le capitaine Igloo ou le capitaine du Costa Concordia?
Ah, j'aime bien le capitaine Nemo.
Le capitaine Nemo, c'est chic. Ouais. Si on vous obligeait à en prendre une, avec quelle femme politique partiriez-vous pour le Vendée Globe? Delphine Bateau n'étant pas une réponse possible, évidemment.
Il n'y a pas de choix, là.
Ça peut être Hidalgo, ça peut être...
Je ne sais pas.
Bon, ben vous en voulez pas.
Joker,
Marine Le Pen en tout cas n'est pas sorti. Avec quel chanteur qui n'arrêterait pas de chanter ses chansons sur le pont ne partiriez-vous pas au Vendée Globe?
Avec quel chanteur Antoine.
De toute façon, il est déjà loin. Pour la prochaine Route du Rhum, qui est le mieux placé? François Gabart, Gérard Depardieu ou Kenji Girac? Deux jeux de mots pour le prix d'un.
Ah, Kenji Girac doit pas être mal.
Il peut la tenir. Quel est le mot que vous prononcez le plus sur votre bateau? Vous pouvez être vulgaire, bien sûr.
Voilà.
Ce mot-là. Ah oui. C'est donc pas winch de mon cul comme Denis Podalides.
Et est-ce que vous rigolez au moins 3 fois par jour sur votre trimaran?
Ouais, je rigole beaucoup. Je m'amuse beaucoup. J'écoute beaucoup de musique, hein, donc ça me parle bien les playlists. Il faut s'aérer la tête un peu.
Allez, dernière question. Si vous n'étiez pas obligé de mettre la marque de votre sponsor, comment appelleriez-vous votre bateau?
Ah, j'appellerais. Moi, mon surnom, c'est le Chacal.
Bien sûr. Armelle Cléache, merci beaucoup. Skipper, Banque Populaire, on vous suivra bien sûr pour la Route du Rhum en novembre et puis pour le Tour du Monde qui est prévu. Donc, au mois de juillet, on vous suit de près. Enfin, de près. Façon de parler, bien sûr. Merci beaucoup, Armelle Cléache. Merci infiniment. Je vous dis à demain, les amis. Demain, ce sera jour de classe. Ce sera Jupiclasse, dernière classe avant la fin avant les vacances, quoi. Voyez.
Devriez vous réjouir d'avoir un professeur responsable qui continue ses cours jusqu'à la dernière seconde.
Et oui,
c'est une chance.
Pas de jeu de société demain.